Vérité sur le fameux discernement spirituel. Article paru le 10 juillet 2009. Pour tous les aficionados du spirituel, cela est une évidence à traiter d'ignorants, tous ceux qui ne savent pas. Chacun, de sa hauteur égotique, pense qu'il a le discernement juste et fiable, puisqu'il est spirituel. Revisitons donc cette évidence selon la loi de 3D puis de la 5D, on va y voir très clairement que le mental ego est loin d'avoir fait sa valise. Qui plus est, c'est la première porte d'entrée pour les entités de l'ombre. En effet, au vu de toutes les informations plus ou moins contradictoires qui circulent partout, c'est-à-dire dans les livres, sur Internet, dans les réunions, dans les stages, dans les channelings en tout genre, c'est quasiment une lapalissade de dire qu'il faut du discernement. C'est tout autant obligatoire que le PQ quand on a la diarrhée. Avec, c'est déjà délicat, mais sans, c'est pire que d'avoir tous les malheurs de la terre sur le dos. Je ne viens pas à dire que ce serait une souffrance, mais plutôt une gêne assez caractérisée. J'aborde le sujet du discernement tout particulièrement ici et maintenant, car l'époque va s'y prêter de plus en plus. En effet, si, comme il est dit, les forces de l'ombre vont capituler et mourir avec la 3D, je peux vous annoncer que d'ici là, elles vont amplifier au maximum la désinformation afin d'en égarer un max, et par troupeau si possible, car cela ira plus vite. Mettez-vous à leur place pour un moment. Ne faites pas l'effronté, car même si vous vous collez l'étiquette du spirituel sur le chemin de l'éveil, tant que vous n'aurez pas atteint un certain stade, vous aurez tous les marchands du temple sur le bord de la route. En clair, nous avons tous soif de quelque chose. Alors, tôt ou tard, vous allez forcément vouloir faire du business avec eux, car ils se déplacent comme les vendeurs du Tour de France. Ils suivent la course pour se faire un max de blé. Et c'est connu que ceux qui ont le nez dans le guidon tournent en rond pour des clopinettes. Les coureurs n'ont que la rage de vaincre et de pédaler aussi fort qu'ils peuvent pour espérer atteindre un niveau qui ferait fort plaisir à leur petit égo. En effet, ce dernier a besoin de vitamines pour maintenir son emprise d'illusion. Dit autrement, l'orgueil spirituel est nettement plus balèze que les autres types d'orgueil. Car l'ignorant se fait berner normalement, tandis que le spirituel se dit suffisamment intelligent pour y échapper, alors qu'il y tombe encore plus vite et plus fort. D'où une espèce d'organisme anti-secte en France, alors que l'anti-tabac ou l'anti-alcool ne se font même pas remarquer. Donc, d'après vous, si vous étiez à la place de ceux qui sont dans l'ombre et qui veulent avoir un maximum d'efficacité, chez qui iriez-vous d'abord frapper? Chez l'ignorant qui veut que rien ne change ou chez celui qui se démène pour que tout change? Il est clair que leur préférence va vers ceux qui bougent. Il leur suffit donc juste de changer les panneaux indicateurs de place régulièrement pour que les coureurs spirituels tournent en rond et selon leurs besoins. C'est simple et pas compliqué à faire, puisque leurs porte-étendards s'appellent des médiums, des channels, des connectés. Ils ont juste à se mettre sur la bonne fréquence, celle de l'ego mental, puis de se faire passer pour Sananda, Marie-Madeleine, Michael et bien d'autres, pour que d'un seul coup leur émission de radio devienne virale. C'est de l'enfance de l'art, et au vu de la rapidité de diffusion via Internet, même les journalistes du 20h sont à des années-lumière de cette efficacité. Ils en sont encore au scoop qui fera leur carrière, tandis que certains canaux, en l'espace de quelques channelings, dépassent l'audience de ce pauvre journaliste que ce pauvre journaliste pourrait espérer avoir dans son humble vie de professionnels. La donne a changé. Alors croyez-vous que les forces de l'ombre roulent encore à l'époque du télégraphe et du fax? Ils sont déjà passés au télépathique depuis pas mal de temps et que, surtout, ça ne coûte rien tout en allant plus vite. Rappelez-vous, les forces de l'ombre sont des anges comme les autres, mais avec la fonction de vous induire en erreur afin que vous puissiez trouver la voie du milieu. Alors, imaginez le pauvre cycliste qui sue sang et eau pour ascensionner avec une discipline journalière d'enfer. C'est la proie idéale pour les boissons rafraîchissantes au bord du chemin, surtout qu'à l'arrivée, il y a deux magnifiques beautés qui vont vous faire la bise en vous disant, via leur regard, que vous êtes le meilleur. Mais une fois redescendu du podium, si vous y montez, N'espérez pas passer d'agréables moments avec ces créatures de rêve, car elles n'en ont cure de vous. Mais, et surtout, vous serez en manque de force vitale pour les satisfaire au cas où elles diraient oui. D'ailleurs, à ce titre, et si vous êtes vigilant, vous vous direz qu'il y a anguille sous roche, car vous saurez que le lendemain matin, vous ne pourrez même plus pédaler tant elles vous auront vidé le reste de vos énergies. Vous direz alors que c'est la ruse d'un concurrent. Dit autrement, le mec, il pédale toute la journée comme un malade pour espérer quelque chose dont il ne profitera pas du tout au nom de la rose, au nom de la ruse, excusez-moi. La question est donc, pourquoi court-il ? Parce qu'il a des kilos à perdre ? Parce que son toubi lui a dit qu'il fallait qu'il fasse du sport ? Parce qu'il ne veut plus voir sa femme pendant la journée ? Parce qu'il porte un beau maillot plein de pubs ? Parce que c'est bien payé ? Eh bien, faites la comparaison avec les gens qui se disent sur la voie de l'éveil. Vous verrez qu'il n'y a que peu de différence, car tout cela appartient au même monde et donc aux mêmes lois de fonctionnement. Au vu du nombre de spectateurs en bord de route et de la rediffusion sportive sur les antennes, le Tour de France ressemble étrangement au parcours d'un étudiant spirituel qui veut rouler pour le Seigneur. Il y a donc plusieurs équipes portant le nom de religion et chacun se dope selon le niveau de manipulation auquel il est habitué. Certaines équipes privilégieront certains modes de propulsion, à genoux, à plat ventre, voire même rampant, tout en ayant des campements locaux, églises, mosquées, synagogues, etc. Bref, le fameux discernement serait donc l'art de pouvoir détecter les ruses et les drogues utilisées afin de gagner la course le plus proprement possible. Les contrôles antidopage étant maintenant aléatoires, il va falloir trouver des moyens d'invalider les résultats au cas où ils seraient positifs. En effet, vivant dans un monde de négativité suprême, la positivité va être le nectar des cyclistes sur la route de l'ascension. Bref, les anges de l'ombre vont donc enrober leur amphétamine de mort spirituelle avec des couleurs et des odeurs d'amour inconditionnel, style parfum de maître ascensionné. C'est connu, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et pourtant, les cyclistes spirituels jurent qu'ils ne se droguent pas. Leur intégrité est incorruptible, leur sincérité est viscérale, tandis que leur intention est profondément divine, donc inattaquable. Fort de toutes ces qualités, on se demande pourquoi certains coureurs tombent malades pendant le tour. Une mauvaise grippe, chopée dans un moment de fatigue, voire un repas qui passe mal. Les toubibs et les diététiciens du tour ne doivent pas être tous au top. Alors, pour vous, le marathonien ascensionniste, quel est votre toubib et quel diététicien vous fiez-vous? Est-ce que le premier accuse l'autre quand le cycliste est malade et réciproquement? Donc la meilleure façon est d'éviter que l'un renvoie la balle à l'autre tandis que vous souffrez comme un malade. Il ne peut donc y avoir qu'une seule entité qui doit remplir les deux fonctions simultanément. Son nom est l'être essentiel ou étincelle de vie. En clair, c'est la partie incarnée de votre esprit qui se situe dans votre quatrième chakra et donc en plein dans votre cœur physique, là où votre âme est reine. C'est connu que les cyclistes professionnels ont un gros cœur, bien costaud, bien musclé et avec un rythme lent. Cela est identique pour le préposé à l'ascension, car bien utile pour les cols de montagne hors catégorie. Son gros cœur doit être tout gonflé d'amour, doit être costaud quelles que soient les conditions, doit être musclé pour travailler longtemps et sans effort, tout en ayant un rythme lent, celui de la paix intérieure. En clair, le discernement ne peut se faire que lorsque l'on est dans le calme de la paix intérieure. Ensuite, le centrage n'est que la capacité à bien se cadrer, se syntoniser avec la fréquence de notre étincelle divine, la ligne blanche, vous savez, de la route. Eh bien, la réponse viendra assez vite sous une forme de bien-être ou de désagrément. Si ça fait du bien, vous pourrez vous goinfrer, et si vous n'êtes pas sûr, alors passez votre chemin, car quelque chose ne vous conviendra pas. Avoir du discernement, cela ne veut pas dire faire appel à votre cerveau, car c'est justement là que réside votre mental ego. Je sais que les gens sont cons et naïfs de nature, c'est plus facile, car pas d'effort à faire. Mais cela ne pardonne pas s'il croit qu'en demandant au menteur s'il dit la vérité, qu'il aura une réponse vraie. Quelle que soit la réponse, ils l'auront quand même dans le baba. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils sont peut-être des babacools. À cet effet, Quand on dit que quelqu'un est léger, cela veut bien dire qu'il ne pèse pas lourd. Ce doit être forcément la quantité de drogue qu'il s'injecte dans les neurones via des textes canalisés. Ces derniers ne demandent qu'à vous mettre dans un état nirvanesque afin de mieux vous abuser. C'est déplorable, car tout bonnement vrai. Ce doit être vraiment le pied d'être un ange noir plutôt qu'un ange blanc. Ce dernier galère à mort parce qu'il doit respecter des règles du jeu cosmique, tandis que l'autre a le droit de faire tous les coups, même et surtout les plus tordus, afin d'arriver à ses fins. Faut-il trucider les anges de l'ombre ? Difficile, car eux sont aussi aux ordres du sans-nom. Ils font tout simplement leur job, et il faut le reconnaître avec beaucoup de brio et d'efficacité. Alors comment se sortir de ces griffes, puisqu'il nous est collé au basque depuis toujours ? Voir l'article « Qui sont nos anges ?» La réponse tient en trois mots : intégrité, humilité, lâcher prise. Intégrité, faites en sorte que rien ne vous divise, car diviser c'est régner. Contrôlez donc vos émotions en les canalisant correctement et le plus gros du boulot sera fait. L'humilité, c'est en clair ne donner aucune aspérité à votre mental ego en lui spécifiant que vous écoutez votre cœur plutôt que ses peurs, ses envies de pouvoir et ses jérémiades plaintives de l'éternelle victime totalement consentante. Le lâcher prise, c'est l'art de se connecter de l'événement, de se déconnecter de l'événement qui s'accroche à vous en prenant un recul suffisant. En reconnaissant que la vie est un jeu, sautez en dehors du bac à sable de l'illusion et prenez votre pied à changer de programme. Zappez. Petite précision complémentaire pour les puristes de l'amour inconditionnel qui ne comprennent pas vraiment pourquoi il y a tant de souffrance en ce monde et surtout de sa nécessité. Toute sagesse provient d'abord de l'expérimentation et surtout pas de l'analyse et de la réflexion mentale. Vous pouvez décrire le goût du chocolat à quelqu'un, mais cela restera toujours seulement de l'info stockée dans un mental. Faites-lui goûter et l'information sera stockée dans son être. Vous pouvez maintenant imaginer qui du premier ou du second courra le plus vite pour aller en acheter. Eh bien, c'est la même chose pour le spirituel, la paix, l'amour inconditionnel, la compassion. Quand vous y avez goûté, le reste vous devient fade. Et c'est là que vous prenez le vélo et que vous commencez à pédaler sur le Tour de France de l'ascensionniste. L'ange noir se présente toujours avec des habits de lumière pour attirer les mouches qui se retrouveront scotchées par une glu pleine de croyances. Vous pourrez toujours essayer de battre des ailes, mais cela va être dur de s'arracher. L'ange de lumière, lui, il se la coule plus douce puisque son frère de l'ombre fait tout le boulot. Alors, pour ceux qui arrivent à s'arracher de l'autre, ils viennent sur son habit blanc pour le salir de leur impureté ramassée précédemment. En comptant les pattes de mouche, il peut ainsi savoir combien de mouches lui tournent autour. L'ange de lumière aime se faire courtiser, se faire dire des mots tendres et recevoir des sentiments véritables et sincères, tandis que son frère de l'ombre fait et apprécie tout l'inverse. Il n'entend que des gens qui hurlent, qui crient, qui gémissent, qui ne sont jamais contents. Alors c'est facile de détecter les anges noirs. C'est là où il y a le plus de bruit, le plus de bordel, le plus de grande gueule et le plus de bourdonnement de fond. Tandis que chez l'ange blanc, le silence est euphorisant. Le calme est légendaire, la discussion est posée, et s'il y en a une, on vous laisse finir votre phrase. Les roquets et les joutes verbales, c'est chez l'autre. Là où les gens sont dans la pleine lumière de leur ignorance, avec les pieds dans les emmerdes, dans la mouise, dans la noirceur. C'est d'ailleurs leur sujet de discussion principal. Sachez donc que votre discernement n'est point dans votre tête, mais dans votre cœur. Si vous n'arrivez pas à discerner les deux, dites-vous alors que ce qui ne vient pas de votre tête est probablement plus proche de la vérité. C'est un raccourci qui se révèle très efficace quand on est en plein blues. De toute façon, pour acquérir de la sagesse, il faut expérimenter. Dit autrement et d'une façon plus poétique, la sagesse s'écrit à l'encre noire sur la page blanche de votre divinité. Essayez donc d'utiliser une écriture lisible, afin que les autres puissent apprendre de vous, Car les barbouillages légendaires de nos jeunes années en maternelle ne sont pas très réalistes, même si on en a été très fier. Merci papa, merci maman de m'avoir raconté des conneries pendant si longtemps. Bref, l'encre de la vie s'écrit par le pinceau de notre conscience sur le long livre de notre âme, qui a vraiment envie d'être un auteur littéraire prolifique. À chaque vie incarnée, une histoire, un roman, afin de compléter la bibliothèque du sans-nom, qui s'ennuie un peu dans ces couloirs de l'infinitude.